Il est 6h20. Jusqu'où ira l'escalade entre Donald Trump et Xi Jinping? Les États-Unis se sentent menacés par la Chine sur le plan économique, technologique et même militaire. Une guerre commerciale qui se cristallise autour du géant des télécoms Huawei. Bonjour Sébastien Jean.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Alors pour bien comprendre les enjeux de ce dossier, il faut rappeler ce qu'est Huawei. C'est le spécialiste mondial de la 5G et le déploiement de cette technologie fait l'objet d'une intense lutte géopolitique. Il y a quelques jours, les États-Unis ont placé Huawei sur la liste des entreprises qui menacent la sécurité nationale. De quoi Huawei est-il accusé précisément ?
Il y a des accusations qui sont essentiellement de deux ordres. Celles, disons, de fond qui sont répétées depuis un certain temps sont des accusations de d'espionnage, de collaboration avec l'État chinois pour utiliser ces technologies et ces réseaux pour introduire ce qu'on appelle des backdoors, donc des entrées secrètes, disons, permettant d'avoir accès aux informations. Et puis d'autre part, il y a un deuxième dossier lié à l'interpellation de la directrice financière de Huawei au Canada, qui est lié au non-respect des sanctions américaines contre l'Iran.
Mais là, le gros dossier actuellement qui fait beaucoup parler, c'est ce dossier donc d'espionnage avec dans les équipements, c'est ça qui est en train que Huawei est en train de développer, peut-être des mouchards ou des choses comme ça.
Absolument, c'est le plus structurel, disons. La question est de savoir si le fait d'avoir un opérateur chinois qui soit le fournisseur des équipements de réseau pour la 5G en particulier doit laisser craindre une fuite d'informations potentielles envers le gouvernement chinois. Pourquoi on se pose la question? On peut l'illustrer de deux façons. L'une, c'est qu'il y a une loi du renseignement national en Chine depuis 2017 qui oblige les opérateurs à collaborer avec le gouvernement chinois. D'une certaine façon, ça clarifie les choses. La deuxième, c'est que personne n'est dupe, et certainement pas les Américains. Si le gouvernement veut obtenir des informations des opérateurs, il l'obtient, et les Américains sont bien placés pour le savoir, parce que l'affaire Snowden a montré que eux-mêmes utilisaient notamment leur emprise sur Cisco pour les contraindre à donner de l'information au service de renseignement.
Oui, c'était la NSA, c'est ça, qui
absolument,
à l'époque,
la NSA,
avait été accusée.
Et y compris pour aller jusqu'à écouter le téléphone mobile d'Angela Merkel, ou bien même pour donner des informations économiques sur les investissements européen quand il passait une certaine taille.
Est-ce que les accusations américaines sont fondées? Est-ce que les États-Unis ont des preuves contre Huawei?
On est dans le domaine d'informations classifiées, sensibles. Donc, moi, je n'ai pas la réponse. Mais je crois qu'on peut dire, d'une part, on vient de le dire que la menace existe puisque elle s'est matérialisée dans le passé. Et d'autre part, il faut souligner que la 5G, c'est quelque chose de vraiment fondamental qui va être au cœur de l'évolution de nos économies de demain. L'industrie, la nouvelle génération de l'industrie, la mobilité aussi, les voitures autonomes, par exemple, et même le militaire, le stratégique. C'est pour ça que là, on est vraiment tout près du moteur, du cœur du réacteur de la puissance.
Donc ce que vous me dites, en fait, c'est que ces accusations d'espionnage, ça pourrait être juste un outil pour plomber, voire couler Huawei, qui représente plutôt un rival.
On va y venir, je pense, mais couler, c'est pas si simple, parce que c'est un gros bateau, c'est-à-dire que ça serait une lourde erreur de penser que Huawei, c'est juste une entreprise qui copie ou quoi.
C'est quoi le poids de Huawei aujourd'hui?
Huawei, c'est 80 000 ingénieurs de R&D aujourd'hui. Donc, une force inimaginable de recherche et développement, d'innovation, etc. Donc, c'est le porte-étendard de la technologie chinoise, et la technologie chinoise dans son ensemble est aujourd'hui en train de monter sa puissance. Et au fond, ce qui se montre aujourd'hui, c'est l'inquiétude des États-Unis face à cette rivalité. Ils ont qualifié ça de concurrence stratégique. Et c'est vraiment ça, c'est sur tous les fronts, c'est-à-dire l'économie, la technologie, l'innovation, la défense, enfin les questions géostratégiques. Donc là, il y a le porte-étendard, et il y a un point faible aussi que les États-Unis ont identifié dans l'économie chinoise, ce sont en particulier les semi-conducteurs. Aujourd'hui, la Chine dépense plus pour importer des semi-conducteurs que du pétrole, nettement plus d'ailleurs. Et Huawei est sans doute l'une des entreprises la plus avancée en Chine. Elle a notamment une filiale qui est dédiée à ça. Mais plus on arrive à des technologies de dernière génération, les plus élaborées, disons, plus ils dépendent quand même encore des importations américaines, à tel point qu'ils ont fait des stocks.
Donc c'est à la fois, si je comprends bien, une affaire d'espionnage à la base, mais aussi une guerre technologique et aussi un outil dans la guerre commerciale que se livrent depuis plus d'un an maintenant les États-Unis et la Chine, c'est ça ? C'est les trois ensemble ?
Absolument. Et on arrive à une étape où on se demande si on n'est pas face à une tentative de négociation qui est en train de dégénérer en affrontement un peu destructeur. C'est-à-dire qu'au départ, au fond, quand Donald Trump disait « je veux limiter le déficit commercial par rapport à la Chine », bon, enfin, ou d'une façon générale des États-Unis, on pouvait se dire « c'est compréhensible, l'instrument est mal adapté ».
Il voulait rééquilibrer les échanges.
Parce que les États-Unis ont trop de déficit commercial. Bon, les économistes disent « c'est pas avec les droits de douane que ça se règle, mais pourquoi pas ?» Enfin, disons, on peut entendre cet argument. Ensuite, on dit « bon, il y a vraiment un problème avec les transferts de technologie et les subventions chinoises ». Là, nous, Européens, on pense à voix basse, ben oui, c'est vrai, on partage cette préoccupation, mais c'est très difficile de les faire changer. Là, maintenant, on a l'impression que progressivement, on est en train de se diriger de la part des États-Unis vers une stratégie qui consiste à limiter, à brider le développement de la Chine. Ça n'est absolument pas légitime. La Chine, c'est des centaines de millions de personnes et elles ont droit évidemment au développement et à la lutte contre la pauvreté et puis au développement économique. Ça n'est pas légitime et ça n'est pas atteignable non plus parce que la Chine est trop puissante aujourd'hui pour se laisser maltraiter comme ça. D'ailleurs, la réaction de Xi Jinping, la première quasiment, ça a été le lendemain d'aller visiter un site de production de terres rares, pour dire.
Lui aussi, il montre les muscles.
De façon subliminale. Attention, vous pouvez nous faire, nous porter préjudice, c'est vrai, mais moi aussi, je peux vous faire mal.
Mais il faut rappeler ce que c'est, les terres rares, hein, ce sont des métaux qui sont indispensables, justement, à cette industrie mondiale. Hein,
absolument, sur beaucoup d'aspects, et sur une grande partie d'entre eux, la Chine a un quasi-monopole sur quasiment 80% des terres rares.
Qui se trouve en Chine, 80% des terres rares.
Oui, aujourd'hui, leur exploitation se trouve en Chine. Je ne vais pas rentrer dans des développements longs, mais une des raisons, c'est notamment que c'est très coûteux, et notamment en termes d'effets sur l'environnement, de pollution locale. Et finalement, la Chine a accepté de subir ces effets, tandis que les pays occidentaux, depuis nombreuses années déjà, progressivement, les ont réduits.
Est-ce qu'il y a d'autres pays, à part les États-Unis, qui, eux aussi, mettent la pression sur la Chine, ou même ont déjà pris des sanctions ?
Des pays qui ont pris des sanctions, non, mais des pays qui sont pris à partie et sur lesquels les États-Unis en particulier et la Chine aussi, d'ailleurs dans une certaine mesure, font pression, oui. Parce que, au fond, aujourd'hui, on est en train de parler beaucoup aux États-Unis de découplage. Mais pour découpler, il faudrait être un couple. Mais c'est pas un couple dont il s'agit. C'est un écheveau extraordinairement, formidablement compliqué. La complexité de l'industrie électronique, elle est absolument inimaginable aujourd'hui et elle fait que aucun pays tout seul ne maîtrise l'ensemble de ces aspects. Donc, si vous regardez les éléments de pointe, vous allez avoir des optiques du Japon, des cartes mémoire de Corée, des éléments qui viennent aussi d'Allemagne et d'Europe pour certains d'entre eux. Donc, évidemment, la façon dont les pays tiers réagissent dans ce conflit, dans cette tension, est très importante pour les deux partenaires.
En guise de conclusion, est-ce que vous diriez qu'on assiste à une nouvelle guerre froide, une guerre froide économique ?
C'est la menace, disons, qui nous pend au nez aujourd'hui, j'allais dire. Il faut pas aller trop vite en besogne, je crois. Il faut réaliser que les sanctions dont on parle ont été différées. Un mois, ça n'a pas été dit explicitement, mais c'est la réalité, un mois environ pour les droits de douane et trois mois pour ces sanctions contre Huawei. C'est une façon, je crois, pour les Américains de laisser la porte entrouverte pour une issue aux négociations. Le problème, c'est que la tension est tellement montée que j'ai l'impression que la possibilité d'un accord est en train de se réduire de jour en jour.
Merci Sébastien Jean, directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Vous étiez l'invité du 5-7 ce matin.
Merci.